Bonjour ou bonsoir à tous, auditeurs des chroniques historiques sur Domfront. Nous sommes en cours d'étude des documents, des grands documents qui nous permettent d'écrire l'histoire de Domfront. Et nous en étions restés, grosso modo, à l'époque de la guerre de Cent Ans. Alors, dans la première partie de la guerre de Cent Ans, si vous vous souvenez, on est assez démunis. Hein, c'est l'époque des comtes d'Alençon. Et puis éventuellement duc d'Alençon à partir du 1er janvier 1404, hein, pas avant. Et 1414, pardon, pas avant. On a peu de documents sur cette époque-là. Par contre, quand les Anglais prennent Domfront et s'établissent pour toute la fin de la guerre de Cent Ans, pour une période de 33 ans, là, on a beaucoup plus de documents. Et avec la période de Robert d'Artois que nous avons vue dans une chronique précédente, c'est vraiment l'époque pour le Moyen-Âge qui est la mieux documentée. Donc l'occupation anglaise, elle a duré de 1418 à 1450. Le roi d'Angleterre se prétend roi de France, il s'appelle Henri V, alors c'est pas le premier, hein, il a repris les revendications de son ancêtre Édouard III. Il a débarqué en France, il a écrasé l'armée française en 1415 à Azincourt une première fois, donc après il a toute facilité pour revenir. Il débarque en 1417 en Basse-Normandie, là, du côté de Trouville, et il entreprend la conquête systématique de la Normandie. Donc il a une tactique bien rodée, qui a été la même que celle de Philippe Auguste à l'époque. Il descend vers le sud et il coupe la Normandie en deux, une partie donc occidentale et une partie orientale. Alors lui, il va se retourner vers la partie orientale, vers Rouen, qu'il prendra après un très long siège en janvier 1419. Et pour la partie occidentale, l'armée anglaise parvient tardivement devant Domfront en novembre 1417. Et le siège, là aussi, dure très longtemps. C'est le plus long siège de la campagne, si j'accepte évidemment le siège du Mont-Saint-Michel qui n'a jamais été pris, et celui de Rouen, puisque la place, qui est tenue par un lieutenant qui s'appelle Clément Le Bigot, qui est un lieutenant du duc d'Alençon, ne se rend qu'à partir du 22 juillet 1418. Donc le siège, il a duré un peu plus de 6 mois. Donc les Anglais prennent Domfront, y établissent une garnison et aussi toute une administration. Alors faut bien comprendre que on dit l'occupation anglaise, c'est à la limite du faux sens. Le roi d'Angleterre, Henri V, se prétend roi de France. Et en Normandie, il agit en tant que roi de France, pas spécialement en tant qu'Anglais. Son personnel, d'ailleurs, alors les soldats sont quand même très majoritairement anglais, faut être sérieux quand même, quoique il y ait des Français, des Flamands, quelques Allemands dans son armée, des Normands aussi, qui sont signalés comme tels, mais son personnel administratif, il est majoritairement français, au moins pour les échelons inférieurs. Bon, dans les très hautes sphères, ça, il est quand même majoritairement anglais, hein, le Grand Conseil qui est à Rouen est majoritairement anglais, mais les vicomtes, les procureurs du roi, les avocats du roi, les tabellions, enfin tout ce petit personnel administratif, il est en fait très français, ça écrit français et ça rend des comptes à l'administration française et pas spécialement, et ces documents-là ne finissent pas en Angleterre. On est en Normandie, on est dans le royaume de France, on n'est pas en Angleterre. Donc il subsiste de cette période de nombreux documents originaux. On va faire la différence entre les documents que je vais qualifier de civils et les documents militaires. Alors, nous commençons par les documents militaires. Alors, le château de Domfront, c'est le siège d'une garnison permanente qui, au début, dans les années 1420, jusqu'au début des années 1430 à peu près, sert de base arrière pour les opérations dans le Maine. Parce que la guerre, il n'y a pas de front comme en 14-18, hein, on n'en est pas là. Mais enfin, les opérations, les Anglais n'ont pas réussi à percer jusqu'à la Loire, hein, et les opérations, une espèce de guérilla, de guerre informelle, de rencontres entre des petites compagnies ou des choses comme ça, ça se passe du côté, on va dire, de Laval, puis ça remonte lentement vers Ambrières-Mayenne, ou Mayenne-Ambrières. L'effectif de la garnison, il est connu par beaucoup de documents. On a 4 catégories de documents, il y en a environ 90, ce qui est quand même pas rien. On a des mandements et des ordonnances qui fixent les effectifs. Donc, ça ne donne pas plus de renseignements que ça. C'est-à-dire qu'il vous reste un document comme quoi le roi, ou plus tard, duc de Bedford, régent, parce qu'Henri V est mort assez rapidement, en 1422, et son fils, il a même pas un an, il a 6 mois ou 8 mois, vous vous doutez bien que ce n'est pas lui qui gouverne, donc c'est le frère du roi Henri V, ou l'oncle du roi Henri VI qui gouverne, ça s'appelle le duc de Bedford. Il est installé à Rouen, ou à Paris éventuellement, bah, enfin plutôt à Rouen. Et il a un grand conseil et il ordonne qu'il y ait tant de soldats à cheval, tant d'archers à cheval ou à pied pour le château de Domfront. Enfin, pas seulement le château de Domfront, hein, pour les places en Normandie. Bon, voilà, ça, c'est le premier type de document. Donc, des mandements ou des ordonnances. Le deuxième type de document, c'est en sens inverse, c'est des quittances pour les gages qui sont établies par le capitaine. Donc, il y a un capitaine par garnison, donc il y a un capitaine de Domfront. Et il reconnaît qu'il a perçu telle somme pour les gages de tant d'hommes. Donc là aussi, ça nous donne les effectifs. Les effectifs, vous allez me dire combien ? Eh ben, ça dépend des périodes. Quand ça va bien pour les Anglais, que la situation est calme, notamment entre 1425 et 1429, ils ont battu une nouvelle fois les Français à Verneuil, ils sont tranquilles, il n'y a pas de retour offensif à craindre. Ils étaient environ 200 au départ, château de Domfront, là, après la prise de la forteresse en 1419-1420. Eh ben, on s'est permis de faire descendre les effectifs et ils sont plus qu'environ 60, hein, 15 hommes d'armes à cheval, 15 hommes d'armes, excusez-moi, pas tous à cheval, et 3 archers par homme d'armes, donc 45, donc 45 plus 15 égale 60. Puis quand ça va mal, et ça va mal à partir de Jeanne d'Arc, la situation se renverse, les Anglais réaugmentent leurs effectifs et on va remonter vers des effectifs de 120, puis 160, puis 200 hommes d'armes, jusqu'à ce que les ennuis financiers les contraignent à rediminuer un petit peu et on finira la guerre avec des effectifs de l'ordre de 160 hommes d'armes, auxquels il faut ajouter les crues. Alors les crues, ce sont des renforts provisoires qui ne sont pas affectés à la garnison de Domfront. On les reconnaît parce que d'abord on vous le dit que c'est une crue, et deuxièmement parce qu'ils sont tous à cheval. Pas d'hommes d'armes et d'archers à pied, ils sont tous à cheval parce qu'ils battent la campagne Tours pour faire régner l'ordre. Et ces crues, elles sont nommées pour un quartier ou deux quartiers d'an ou trois quartiers d'an, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, 9 mois, pas plus, puis après elles s'en vont. Voilà, donc ça c'est les premiers types de documents, les mandements ou les quittances. Et mais les plus intéressants sont les montres et les contrôles. Alors les montres, ce sont tout simplement des revues d'effectifs. On réunissait 4 fois par an, des dates très précises, hein, fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, les effectifs de la garnison, grosso modo, levez la main et dites si vous êtes présent ou pas. Et puis on vérifiait aussi s'ils étaient bien équipés. Est-ce qu'ils avaient leurs chevaux? Est-ce que les archers avaient leur arc, etc.? Est-ce que les soldats avaient leur casque? Parce que s'ils ne l'avaient pas, ils payaient une pénalité. Ou tout du moins, la garnison était moins payée. Il y avait une déduction. Donc s'appelle les montres, hein, parce qu'on montrait les gens, ou les gens se montraient. Ce sont des parchemins qui généralement sont tout en longueur, avec des listes de noms, tout simplement, des noms propres, hein, un tel, classés par catégorie. Homme d'armes à cheval, homme d'armes à pied, archer à cheval, archer à pied. Normalement, il devrait y avoir 3 archers pour un homme d'armes dans l'armée anglaise. Alors, les montres et les contrôles... les contrôles, c'est, au sens propre, c'est un contre-rouleau. On roulait les parchemins, donc ça faisait un rouleau de parchemin, et là c'est un contre-rouleau. Et les contrôles, ils précisent, alors on n'a pas tout ce qu'on veut, on en a 8 je crois pour Domfront, pour la garnison de Domfront, ce qui est déjà pas mal, mais enfin il devrait y en avoir, s'ils avaient tous été conservés, il devrait y en avoir au moins 40. Les contrôles, ils notent toutes les absences, quelle que soit la raison, un tel est absent, il a été fait prisonnier, bon, il est absent. Il a eu une permission, ou il est parti faire ses petites affaires, je ne sais pas où, à Caen ou ailleurs, c'est possible, hein, ils avaient des droits de sortie, mais quand ils étaient absents, ils n'étaient pas payés. C'est pour ça que c'est contrôlé. Donc, un tel a été vacant de telle date à telle date, pendant 3 jours, 6 jours, etc., etc. Donc, c'est déduit de ces gages. Alors, s'ils étaient, vous allez me dire, mais s'ils étaient en mission, ben, s'ils étaient en mission, ils recevaient une indemnité spécifique pour la mission. Donc, voilà. Les contrôles montrent aussi ce qu'on appelle les gains de guerre. Quand les soldats anglais faisaient un prisonnier quelconque, ou capturer un cheval à des ennemis, à des brigands ou à des Français, etc., etc., ou des soldats français ou partisans du roi de France, il le touchait des rançons, hein, ou il touchait le gain de la vente, mais le roi, enfin le supérieur immédiat prélevait un tiers des gains. systématiquement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les tiers égains. Donc si c'est un archer, je prends un exemple, hein, l'archer a capturé un prisonnier qui est pour lequel on a fixé une rançon et le prisonnier a payé la rançon ou la famille du prisonnier a payé la rançon. L'homme d'armes de l'archer touche un tiers de ce qu'a touché l'archer. Le capitaine touche un tiers de ce qu'a touché l'homme d'armes et le roi touche un tiers de ce qu'a touché le capitaine. Alors, c'était surveillé parce que vous comprenez que si c'est le capitaine qui a pris l'archer, la rançon est la même, mais le roi touche directement un tiers. Tandis que si c'est un archer qui a pris le prisonnier, eh ben il a touché, lui, le roi ne touche que le tiers du tiers du tiers du tiers. Donc, c'est-à-dire beaucoup moins. Donc, il y avait dans chaque garnison un contrôleur, au sens propre du terme, qui surveillait tout ça. C'est quand même extrêmement, extrêmement sérieux. Alors, je note que les documents militaires sont très conservés dans les années 1430 et au tout début des années 1440. On a très peu de choses pour les années 1420. On a une montre en décembre 1420, rien avant, rien après, si ce n'est éventuellement des mentions d'effectifs généraux, mais on n'a pas de contrôle et de montre. Et on en a très peu à la fin aussi des années 1440, on a une montre en 1443, décembre 1443 ou juin 1443, je ne me souviens plus, et une en 1445, et après, on n'a quasiment plus rien, on a une crue en 1448, mais ce n'est qu'une crue. Est-ce que ce sont les hasards de la conservation, ou est-ce que ce sont des documents qui ont survécu à l'incendie de la Chambre des Comptes de 1737, hein, un coin qui a moins brûlé que les autres, allez savoir, enfin, je constate. C'est l'inverse pour les documents civils. Alors, pour les documents civils, alors là, il y a tout, vraiment de tout. Les plus intéressants, ce sont les comtes de vicomté. Administrativement, Normandie est divisée en bailliages. Les bailliages sont divisés en vicomtés. Donc, nous, on est dans le bailliage d'Alençon. On était dans le bailliage d'Alençon, qui correspond, évidemment, plus ou moins vaguement au comté, au duché d'Alençon. C'est un peu logique. Et à l'intérieur duquel, il y avait des vicomtés. Et c'est la vicomté de Domfront qui existe depuis minimum le 14e siècle et sans doute qui est l'héritage de la châtellenie de Domfront. Alors là, c'est depuis quasiment les origines. Et le vicomte rendait des comptes deux fois par an. Alors, il nous reste essentiellement des comptes, là, cette fois-ci, pour les années 1420, et pas du tout pour 1430 et 1440. Même remarque précédemment, est-ce que les documents civils, entre guillemets, les comptes de vicomté des années 1430-1440 ont brûlé en 1737 ou pas, et c'est le coin où étaient conservés les documents de 1420 qui ont mieux survécu. Je ne sais pas, je constate. Alors, notre gros monument, si je puis dire, ce sont les comptes des années de Toussaint 1419 à l'Ascension 1421. Ça fait quatre comptes consécutifs, hein, Toussaint 1419, Ascension et Toussaint 1420, Ascension 1421. Donc on a quatre comptes consécutifs et conservés intégralement. Ça fait environ 210 pages hein, dans ces eaux-là. C'est une source, évidemment, vous doutez bien, 210 pages de connaissances, hein, de recettes diverses, de dépenses diverses. C'est quand même essentiel, hein, un document essentiel. Et je ne sais pas s'il y a une autre vicomté en Normandie de ces époques-là qui en ait autant. Bon, des comptes conservés, il y en a quelques-uns, mais quatre complets de suite, c'est pas sûr. Et puis, on a quelques fragments qui subsistent, plutôt des pages survivantes. On a deux pages pour l'Ascension 1425, ce sont des recettes. On a deux ou quatre pages pour la Toussaint 1426, ou l'Ascension 1427, mais je crois que c'est plutôt la Toussaint 1426. Et on a les deux premières pages du compte de l'Ascension 1428. Voilà, c'est tout. Vous débrouillez avec ça, ce sont vraiment des résidus. Donc voilà, ça, ce sont les comptes de vicomté, qui sont donc extrêmement importants. Et pour notre connaissance du château, nous avons des comptes de réparation du château. Alors, on en a principalement deux, qui sont des longs documents. On en a un, 1432, qui est coupé à moitié. Enfin, il en manque la moitié. Il devait y avoir deux parchemins cousus l'un à l'autre, vraisemblablement. Et le deuxième a disparu. Donc, on tombe, ça se termine de façon un peu abrupte. Et on a un document complet pour 1437. Alors, on vous détaille. Alors là, ça ne concerne que le château. Ça ne concerne quasiment pas la ville. Si, un peu les portes de la ville, parce qu'ils refont les portes de la ville suite à une attaque française. Ils refont les serrures ou des choses comme ça, mais ça concerne quand même exclusivement le château, où on fait des travaux à tel tour, à tel ou tel bâtiment à l'intérieur. Bon, ce qui est un petit peu logique, hein, les Anglais ils se préoccupent de leur forteresse, de la forteresse qui tienne, et pas spécialement de la ville. Donc voilà, 1437, et puis le reste, Le reste, ce sont des quittances, une fois de plus. Alors, on a des quittances pour travaux, tel ou tel artisan local reconnaît avoir été payé pour lui-même et puis ses assistants ou ses aides, tant de journées de travail pour faire telle ou telle chose. Alors, des fois, on retrouve, quand ça correspond à un des grands documents dont je viens de parler, eh ben, on retrouve. Hein, on a les travaux sur le document principal et on a le quittance spécifique de tel ou tel artisan qui a contribué à ces travaux-là. Des fois, on n'a que la quittance parce que le compte principal, il n'y a plus, il a disparu. Donc on a quelques quittances pour travaux, on a des quittances pour paiement de messagers, parce que le capitaine ou le vicomte envoie un messager, alors Dieu sait où, hein, à Rouen, à Alençon, auprès du bailli, auprès du conseil, etc. Et ces gens-là sont payés, ou il en reçoit et c'est à lui de les payer. Alors, on a des quittances hein, pour un messager. Papapap. On a ce qui s'appelle, ce sont des rôles d'imposition. On appelle ça des assiettes de l'aide. Donc les États de Normandie se réunissaient régulièrement. Le gouvernement, évidemment, pleurait misère. Les temps sont durs, la guerre est dure, on ne la gagne pas, on a besoin d'argent pour les fortifications, pour l'armée, etc. Et bref, on priait aimablement et même on incitait très fortement les Normands à payer. Donc ensuite, ça redescendait en cascade dans les bailliages, les vicomtes. Et les vicomtes répartissaient entre les paroisses. Et ensuite, les paroissiens se débrouillaient pour répartir la charge entre eux. Par exemple, la paroisse de, je sais pas moi, de Longlet devait payer 60 livres. La paroisse de Chancecret devait payer 65 livres, etc. Et c'était les paroissiens qui se débrouillaient entre eux. Normalement, les plus riches payaient plus. Hein, on disait le fort porte le faible. Donc les gens les plus pauvres ne payaient pas ou payaient très peu et les riches théoriquement payaient plus. Théoriquement. Ça, on ne sait pas du tout, parce que là, il n'y a pas de document. Ça se passait au sein d'assemblées paroissiales locales, et ça, c'est absolument pas conservé. Donc nous, on a des fois un certain nombre de ce qu'on appelle des assiettes de l'aide. Hein, comment on répartissait les aides votées par les États, hein, l'aide financière votée par les États, votée. Disons que les États, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Bon, une aide de 200 000 livres, répartie sur trois paiements, trois en tout, en quatre quartiers, et puis, bon, puis ça redescendait au niveau des paroisses. Et ensuite, voilà. C'était réparti entre les paroisses. Et puis, on a la dernière catégorie intéressante, ce sont les quittances pour exécution de prisonniers. Parce que les soldats anglais faisaient un certain nombre de prisonniers. Alors, ça peut être des Français, ça peut être des malfaiteurs. Ils appellent ça souvent des larrons et agresseurs de chemin. Et on a un mal fou à savoir si ce sont des vrais résistants à l'occupation anglaise, des partisans du roi de France, ou des vrais brigands, ou les deux à la fois. Et on peut faire un parallèle avec l'occupation là, dans les années 40 en France, où il y avait des résistants, il fallait bien qu'ils mangent. Donc ils allaient plus ou moins dans les maquis pressuraient plus ou moins les pays du coin en disant « Vous êtes priés de nous donner à manger, etc. etc. » Et les fermiers, les agriculteurs étaient coincés entre les autorités allemandes ou les autorités de Vichy qui les empêchaient d'eux et les miliciens qui les contraignaient à. Donc on ne sait pas quand est-ce que c'est du brigandage pur et simple, quand est-ce que c'est politique ou quand est-ce que c'est les deux à la fois. Bon, en tous les cas, il y avait des prisonniers et un certain nombre de ces prisonniers étaient rançonnés. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc ils étaient libérés moyennant rançon. Alors on pouvait être prisonnier pour pas grand-chose, hein. Par exemple, on devait porter sur le vêtement ou sur le chapeau la croix rouge de Saint-Georges, ce qui présupposait qu'on était fidèle au roi de France et d'Angleterre, dont Saint-Georges était le patron. Et si on était pris sur un chemin ou en ville sans sa croix de Saint-Georges, on avait des ennuis, quoi. On payait une amende, ou si on ne pouvait pas la payer, on était mis en prison en attendant que la famille le paye. Et puis je vous rappelle, je crois que j'en ai déjà parlé, que quand on est en prison à l'époque, on paye son hébergement, hein, on n'est pas nourri gratuit. On est mal logé, on est mal nourri et c'est pas gratuit, hein, c'est la famille qui paye. Donc il y a cela, paroisse devait payer aussi ce qu'on appelait des patis ou apatis, c'est-à-dire qu'elle payait les soldats anglais pour être tranquille, quoi. Grosso modo, elle payait entre guillemets la protection que leur assuraient les soldats anglais. Bon, ça confine aux raquettes, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Alors, si une paroisse ne payait pas ses patis, elle risquait fortement de voir débouler une escouade de soldats anglais qui venaient se servir, quoi, et qui volaient, qui pillaient un peu tout, ou qui cassaient la gueule des autorités, des notables de la paroisse pour être payés. Et puis, il y avait ceux qui méritaient une exécution, parce qu'ils avaient volé un cheval, parce qu'ils avaient violé une femme, parce qu'ils avaient attaqué des soldats anglais, parce que, etc., etc. Et ceux-là étaient exécutés. Alors, les exécutions, généralement, c'est par pendaison, c'est le plus fréquent. Et le bourreau touchait 6 livres par pendaison, et le soldat qui avait capturé la personne en question touchait, je l'ai dit tout à l'heure, une espèce de prime pour avoir capturé quelqu'un. Exceptionnellement, les exécutés pouvaient être décapités. Alors, généralement, on dit que les roturiers étaient pendus et que les nobles étaient décapités, c'est pas faux, mais on a des exemples de prisonniers tout à fait roturiers, tout à fait lambda, qui sont décapités. Par exemple, je crois que c'est en 1420 ou 21, on décapite 4 artisans, un charpentier ou 2 charpentiers, enfin vous voyez le genre, ou 2 maçons, et 2 maçons qui travaillaient au château. Et on nous dit qu'ils avaient profité des travaux au château pour se renseigner sur les défenses de la place et pour communiquer les renseignements aux Français. Ce qui présuppose qu'il y avait une résistance déjà à peu près organisée et qu'il y avait des partisans des Français ou des soldats français pas trop loin d'ici pour qu'on leur communique les renseignements. Et bien ceux-là sont décapités. J'en ai déduit que quand il y avait décapitation... Alors, quand c'est pendaison, on ne sait pas trop si c'est un vulgaire brigand, un vulgaire voleur ou agresseur de chemin, ou violeur, ou tout ce que vous voulez, ou voleur, ou un résistant, mais quand c'est décapitation, a priori, c'est un indice assez clair d'exécution pour motif politique, pour motif de résistance. Donc voilà, tous les documents dont on possède, toutes les catégories de documents qu'on possède pour la période de l'occupation anglaise, ça fait environ 130 documents en ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est environ 130, un peu plus avec ceux qui ne concerne pas spécifiquement Domfront, mais dans lequel Domfront est mentionné. Par exemple, la tournée d'un messager qui passe par Vire, Argentan, etc., et Mortain et Domfront. Mais il n'est pas venu uniquement à Domfront. Ou les comptes du trésorier général de Normandie. Alors, le trésorier général de Normandie s'occupe de toute la Normandie. Alors, vous trouvez des fois à Domfront, mais vous doutez bien que ces comptes ne concernent pas exclusivement Domfront. Alors, où trouve-t-on ces documents? Contrairement à ce que vous pourrez croire, pas tellement où on s'attendrait à les trouver, c'est-à-dire pas tellement en Angleterre. En Angleterre, on a seulement... Alors, les comptes de 1419, 1421 et quelques montres, à ma connaissance, il y a peut-être encore d'autres choses, on n'a pas tout exploré encore, mais les comptes de 1419, 1421 ne sont pas du tout en Angleterre parce qu'on est à l'époque de l'occupation anglaise. J'ai dit au début que, en fait, le roi d'Angleterre se prétend roi de France, agit en tant que roi de France, et les agents territoriaux lui adressent directement à Paris, tant que les Français tant que les Anglais tiennent Paris à la Cour des Comptes, qui est à Paris. Quand ils perdront Paris à partir de 1436, ils se replieront sur Rouen, et les comptes seront dirigés sur Rouen. Ils vont pas du tout à Londres. Londres, c'est le royaume d'Angleterre. C'est pas la Normandie, c'est pas le royaume de France. Donc, en Angleterre, très peu, et quand on a des documents en Angleterre, c'est généralement parce qu'ils résultent de la constitution de collections de parchemins anciennes, parce qu'il y a eu beaucoup d'érudits au XVIIIe, au XIXe siècle surtout, qui ont collectionné des parchemins. On a des gens, là, la collection Chappé, par exemple, que j'ai vu en personne à la Bibliothèque nationale, c'est plusieurs centaines de parchemins. Alors, c'est pas forcément des trucs très spectaculaires, c'est des petites quittances, etc., mais il y en a plein. Il y en a 4 qui concernent Domfront dans le tas. Voilà, ou la collection Philips, ou la collection Mansell, ou la collection Jour sans Vaux. Enfin bon, bref, voilà, c'est des grandes collections établies à la fin du XVIIIe, du XIXe, et certaines sont parties en Angleterre pour ça. Alors, donc, pas tellement en Angleterre, pas tellement aux archives de l'Orne. Il y en a aux archives de l'Orne, quelques montres, il y a quelques documents, quelques assiettes de LED, mais pas non plus tant que ça. On trouve surtout ces documents-là aux archives nationales, et encore, c'est pas là où il y en a le plus, et surtout à la Bibliothèque nationale. C'est là qu'il y en a le plus, parce que des originaux, parce que en fait, la Bibliothèque nationale a récupéré, en quelque sorte, les archives survivantes de la Cour des Comptes, du Conseil Royal, etc., etc., et c'est finalement, c'est là qu'on en a le plus. Puis il y a des notes d'érudits aussi. Alors, par contre, beaucoup de les historiens de Domfront ont bien travaillé, on a travaillé sur les historiens de Domfront précédemment, et il y a un certain nombre de ces documents originaux qui ont été transcrits et copiés, notamment par la sœur ou par les gens qui travaillaient pour la sœur. Et les copies se trouvent aux archives de l'Orne, maintenant. mais les originaux se trouvent à la Bibliothèque nationale. Voilà, dans une prochaine chronique, nous verrons la fin du Moyen-Âge, hein, après la guerre de Cent Ans, la deuxième moitié du XVe siècle, et la période moderne, la Renaissance et la période classique.